France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce get in la radio.
So far, change the radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Il s'appelle José Antonio Kast, c'est le nouveau président chilien. Une victoire haut la main qui marque aussi au Chili, 35 ans après la fin de la dictature, le retour d'un pinochisme revendiqué. Le résultat des urnes montre que ce sont des hommes jeunes avec un sentiment de déclassement notamment qui ont voté pour Kast, et peut-être que ça nous rappelle quelque chose. Nous y viendrons avec notre invité. La France peut-elle encore faire dérailler le Mercosur? Frédéric Seyss nous le dira en remettant le monde à l'endroit. Le reportage est en Cisjordanie. Que fait l'armée israélienne qui termine une opération pour en commencer une autre? Est-ce que ce sont des opérations militaires ou des opérations politiques qui sont en cours? Pour les Palestiniens, ça ne change pas grand-chose.
Le soldat n'avait aucune raison de faire tout exploser. Je lui ai dit de faire comme il voulait. De toute façon, c'est comme ça que les Israéliens agissent depuis toujours avec les Palestiniens. Nous ne sommes pour eux que des terroristes et des détenteurs d'armes.
Un reportage signé Thibault Lefebvre à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé une mise en abîme quand Prada signe un accord avec l'Inde pour fabriquer des sandales précédemment plagiées par le même pays. Et juste avant 19h, c'est la BO du Monde et Cyril Sauvageau avec quelques légendes de la musique éthiopienne. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Vamos a restablecer la ley. Vamos a restablecer el respeto a la ley.
José Antonio Kast, donc, dans le texte au moment de son élection, nous allons rétablir la loi, nous allons rétablir le respect de la loi dans toutes les régions. Bonsoir Franck Godichaud.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités en histoire et études des Amériques latines contemporaines à l'université de Toulouse, Jean Jaurès. On remercie nos amis d'ici Occitanie de vous accueillir. Je cite votre dernier ouvrage qui s'appelle « Découvrir les révolutions chiliennes 70-73 » aux éditions sociales. 35 ans après la fin de la dictature Pinochet, monsieur Godichaud, l'accession au pouvoir de José Antonio Kast, est-ce que c'est un tremblement de terre ou est-ce que c'est la chronique d'un résultat annoncé, tout simplement ?
Alors, si on voit les derniers mois, c'est plutôt une chronique d'un résultat annoncé, puisque l'extrême droite s'est vraiment consolidée au cours des derniers mois. Et c'est en même temps, vous avez raison, une sorte de cycle historique qui semble se fermer, ou en tout cas recommencer. Un éternel recommencement, puisque l'ombre de Pinochet est planée déjà sur la démocratie chilienne depuis la fin de la dictature en 90. Et là, c'est un backlash, un retour brutal vers cette mémoire et vers cette orientation politique.
Ce qui est clair, c'est que la droite, évidemment, n'avait jamais disparu loin de là. On a eu là un premier tour avec une espèce de droite populiste, un monsieur qui s'appelait Franco Parisi, une autre encore plus à droite d'un autre candidat qui s'appelait Johannes Kaiser. Donc, il y avait aussi Kast. Et au fond, au milieu de ces droites-là, s'il fallait définir ce qu'est José Antonio Kast, c'est qui, en fait? Est-ce qu'il est plutôt côté Bolsonaro au Brésil? Est-ce que c'est un Bukele du Salvador? Est-ce que c'est un Trump, tout simplement? Qu'est-ce qu'on dit de ce monsieur?
Alors, c'est vraiment le produit de l'histoire des droites chiliennes. Mmh. C'est un héritier direct d'idéologues de la dictature, comme Jaime Guzmán. Il a d'ailleurs fait un discours assez modéré, dimanche, pour essayer de marquer son recentrage en partie, mais en même temps, il est le produit d'une extrême droite qui revendique ouvertement le pinochetisme, un certain fondamentalisme religieux, un discours très xénophobe. L'idée, c'est retour à l'ordre, retour à la famille traditionnelle, et en même temps, rejet de ce qui a été le grand mouvement social de 2019, qui avait un peu fait bouger tous les ciments du néolibéralisme à la chilienne.
Alors, on y viendra, on va revenir au pinochetisme, mais c'est vrai que ce qui est quand même assez fascinant, c'est que 2019, c'est pas si loin, énorme crise sociale, le Chili qui semblait demander en tout cas plus d'état social, plus d'interventionnisme. Il y a eu la période Gabriel Boric, alors on a bien compris que c'était compliqué, il y a eu l'échec de la constituante notamment, ça a été difficile. Mais est-ce que ça veut dire que ces mesures n'ont jamais gagné finalement le portefeuille des Chiliens?
Ben en tout cas, oui, c'est ces demandes qui étaient installées dans le pays depuis les grandes mobilisations 2019 sur le retour d'un État social et aussi mettre fin aux héritages de la dictature, notamment la Constitution de 1980. Là, il y a eu un basculement en quelques années vers un discours, un récit plutôt imposé par les secteurs conservateurs sur sécurité, migration, narcotrafic. Et en même temps, il y a peut-être un fond commun, c'est-à-dire une population chilienne, notamment les classes populaires, qui rejettent les élites, qui ont dit non à la constitution progressiste de 2022, et en même temps qui disent non à ce qu'a été le gouvernement progressiste de Boric. Donc d'une certaine manière, il y a ce mécontentement, cette frustration accumulée dans un contexte, il faut le dire, de grande précarité matérielle, d'inégalités sociales, qui sont un peu le contexte général de ces mouvements de pendule, de basculement, de dégagisme.
Parce que vous l'avez dit, la campagne, elle a tourné autour de l'insécurité et de l'immigration, j'ai envie de dire, point. Ça veut dire que tout ce qui faisait cette droite-là, et qu'on a déjà entendu notamment de la part de Cast, puisqu'il s'était déjà présenté, donc le refus de l'avortement, le refus du mariage gay, l'antiféminisme, et même le social, on a l'impression qu'il n'a même pas eu besoin d'appuyer sur cette corde-là, que ça n'a même pas été utile en fait.
Ça n'a pas été utile, et d'ailleurs il a fait cette fois-ci le calcul de mettre en sourdine ces thématiques-là, notamment pour essayer de capter un peu plus de votes féminins, et tout concentré effectivement sur la question migratoire, la question sécuritaire, la question du narcotrafic, et aussi certaines questions économiques. En gros, en essayant de critiquer Jeannette Jara, celle qui était au deuxième tour, qui incarnait la coalition de gauche, pour l'héritage qu'elle incarnerait elle, c'est-à-dire celui du gouvernement sortant.
Le vote est obligatoire au Chili, Franco Dichot, il l'est depuis, c'est la première fois d'ailleurs qu'il l'est pour cette élection-là en tout cas, si bien qu'il y avait un gros différentiel, 8 millions d'électeurs la première fois à l'élection de Boric et 13 millions cette fois. Il semble que ce soit justement ces 5 millions de différentiel qui aient fait la différence. C'est qui ces 5 millions-là en fait?
Alors ces 5 millions d'électeurs, électrices réfractaires, plutôt à distance de la politique formelle, à distance des grands débats politiques du pays, qui ont été incorporés donc mécaniquement par ce nouveau scrutin obligatoire, eh bien il semble qu'ils aient voté très largement Cast. Au premier tour, ils avaient voté aussi beaucoup pour Parisi, ce candidat que vous avez cité, plutôt outsider populiste. Et donc, en gros, c'est des classes populaires plutôt mécontentes, peu organisées, et avec une frustration accumulée, avec l'idée que Cast peut-être va renverser la table ou va proposer un nouvel ordre plus économiquement stable pour le pays. Et en même temps, il faut le dire, oui, il y a un fond xénophobe qui a vraiment cru dans le pays considérablement au cours des dernières années.
Mais qui a du sens ou pas? C'est-à-dire qu'il y a 350 000 environ vénézuéliens illégaux en grande majorité. Il a promis Cast de les renvoyer immédiatement. Il les a même prévenus. Vous avez 90 jours pour faire vos valises, sinon ça va être terrible. Est-ce que oui, c'est une réalité ces dernières années? Le Chili a un rapport beaucoup plus compliqué avec ses migrants et surtout est devenu aussi un pays beaucoup moins sûr. Est-ce que ça, c'est une réalité ou pas?
Alors, en tout cas, ce qui est faux, c'est que ce discours a essayé de mettre en place une logique d'équivalence entre migration, insécurité et narcotrafic. Alors que les premières victimes, en fait, de la violence et du narcotrafic sont les migrants, notamment les migrants illégaux. Ce qui est vrai, c'est que, oui, le Chili, historiquement, avait peu d'étrangers sur son sol. Aujourd'hui, on a 8% de la population nationale. Et ce qui est vrai aussi, c'est que dans la dernière période, il y a une transformation notamment du narcotrafic, de la violence, mais par contre il y a une sorte de dissociation incroyable d'ailleurs qui est étudiée au niveau international entre la perception de l'insécurité et la réalité de l'insécurité. Au niveau latino-américain, le Chili reste le pays le plus sûr de la région. Mais en termes de perception, c'est le pays où il y a le plus de sentiments d'insécurité. Et ça, évidemment, ça a été capitalisé par l'extrême droite et il faut le dire aussi un peu monté en épingle par des grands médias conservateurs qui ont joué l'agenda disons, de polarisation sur l'extrême droite du champ médiatique.
C'est fou quand même, hein, parce que immigration, sécurité, narcotrafic, tout ça mêlé, c'est très trumpiste. C'est même totalement trumpiste comme manière de faire, non?
Totalement. Et il y a une sorte de, pour le dire d'une certaine manière, une internationale réactionnaire qui se met en place à l'échelle des Amériques. Trump, d'ailleurs, a salué avec enthousiasme l'arrivée de Cast au pouvoir. Pour lui, au niveau géopolitique, c'est une excellente nouvelle, hein, avec l'Argentine de Milei, le Salvador de Bukele, la droite qui arrive en Bolivie, Noboa en Équateur. Là, il y a vraiment un axe qui se met en place, malgré ces différences, qui sera plutôt aligné sur le trumpisme et qui sera plutôt derrière sa politique actuelle, hein, qui est beaucoup plus agressive, y compris sur le plan militaire, on l'a vu dans la Caraïbe.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté pour Caste et c'est même assez frappant, Franck Godichaud, et c'est frappant surtout, encore une fois, 35 ans après la dictature, donc des gens qui ne l'ont pas connu. Est-ce que ça veut dire, au fond, qu'on a la mémoire courte, qu'on n'en a plus les traces, qu'on n'a plus les images, et que quand on se revendique pinochiste aujourd'hui, on a oublié ce que cette dictature voulait dire, on a oublié les morts, on a oublié les arrestations arbitraires, on a oublié tout ça, et on a retenu, au fond, une espèce de néolibéralisme qui a pu satisfaire toute une partie du peuple chilien.
Oui, en tout cas, ce qui est impressionnant, hein, dans les images d'hier, on avait des gens qui brandissaient le portrait de Pinochet pour fêter la victoire de Caste. On a une nouvelle génération qui, effectivement, n'a pas connu la répression, le terrorisme d'État, notamment des jeunes hommes. Donc, il y a un côté masculiniste, là, très, très, très fort. Et puis, c'est aussi les conditions même de la transition à la chilienne, hein, où il y a eu des consensus établis à partir de 90, mais contre une forte impunité. Donc, une mémoire du pinochetisme qui a pu continuer en fait à travailler le corps social, alors que très peu de responsables de la dictature ont été emprisonnés, condamnés, et ça favorise évidemment la résurgence de cette mémoire autoritaire, maintenant d'un néo-pinochetisme en contexte électoral.
Ça veut dire qu'on l'a pas expurgé, est-ce que ça veut dire aussi au fond qu'on est au Chili dans une espèce de période de révisionnisme de cette période-là, c'est-à-dire le coup d'État était inévitable, il était même légitime, etc. Ce qu'on a pu retrouver d'ailleurs au moment du Brésil de Bolsonaro, qui disait la même chose sur la période dictature du Brésil, non ?
Oui, vous avez raison, et même dans l'Argentine de Milei, il y a une sorte de révisionnisme, certains historiens disent même un négationnisme sur la question des droits humains, qui est on revisite l'histoire et on installe cette mémoire qui essaie de dire finalement les dictatures n'étaient pas si graves, finalement elles ont proposé de la croissance économique, et finalement elles étaient nécessaires pour écraser les rouges, les communistes, les subversifs, qui seraient aujourd'hui pour Caste, par exemple, les féministes. Donc là, il y a un lien qui est entre passé et présent qui est assez clair.
Est-ce que ça veut dire, Franck Godichaud, que non seulement il y a un certain nombre de gens effectivement qui n'ont pas été en prison, qui n'ont pas été jugés, mais est-ce que ça veut dire que lors de cette présidence-là, et là aussi on a l'impression d'entendre quelques relents trumpistes à certains égards, on va libérer aussi des gens qui ont été emprisonnés depuis la fin de la dictature ?
Exactement, et d'ailleurs Caste a essayé à chaque fois d'esquiver cette question qui a été présente dans toute la campagne électorale, parce que dans son programme il y a l'idée de libérer ou en tout cas de ramener dans leur domicile des responsables des violations des droits humains, de crimes contre l'humanité. On le sait d'ailleurs très proche de certains d'entre eux, et rappelons quand même Caste, sa famille, elle est très liée à la dictature. Son frère était ministre de la dictature, il a indirectement participé à prêter même des infrastructures au moment de la répression, sans même parler de son père qui, lui, venait de la Waffen-SS.
De la période nazie, ouais. Une dernière chose, Franck Godichaud, vous nous avez expliqué jusqu'à quel point il y avait un certain nombre de convergences aujourd'hui et qui résonnaient notamment aux yeux de Trump, qui a désormais une espèce d'Amérique du Sud qui lui convient de plus en plus. Et en même temps, ils sont tous tellement différents, tous ces dirigeants d'Amérique du Sud. Est-ce qu'il y a une sorte d'homogénéisation quand même de ces droites dans ce sud du continent américain ou pas ? Est-ce qu'on peut parler comme ça ?
Mais paradoxalement, pas vraiment. Par contre, il y a un espace commun qui continue à se construire. Par exemple, il y a la conférence d'action politique conservatrice où ils se retrouvent. Il y a des réseaux plutôt qu'un alignement. Chacun est vraiment le produit de son histoire, de l'histoire des droites nationales, et s'inscrit dans ces logiques-là tout en entretenant des connivences, du réseautage avec Trump, qui est un peu l'organisateur de tout ça.
Voilà, bah écoutez, l'investiture, si je dirais, donc le démarrage au Chili pour José Antonio Caste, ce sera en mars prochain. Franck Godichaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.
À une prochaine fois, avec grand plaisir. La suite ce soir, c'est vous, Frédéric Seitz, qui remettez le monde à l'endroit.
La France peut-elle encore faire dérailler le traité avec le Mercosur qui hérisse les agriculteurs ?
Et c'est juste après ça. Pour un petit tour dans le bayou de Louisiane, dans la playlist de France Inter avec Helping Hands, Le Monde à l'endroit, c'est Frédéric Seyss.
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Et cette question, Frédéric, y aura-t-il un accord avec le Mercosur au pied du sapin ?
Il a la barbe blanche et les yeux rieurs. Ce n'est pas le Père Noël, mais le président brésilien, Lula. Il promet de ficeler avant Noël ce paquet compliqué, le traité de libre-échange entre l'Union européenne et quatre pays sud-américains. L'accord sera signé ce samedi, proclame Lula, tout sourire dans une vidéo qu'il a postée sur ses réseaux sociaux. Quel contraste entre l'enthousiasme du Brésilien, qui espère doper ses exportations de bœuf, de soja, de sucre vers l'Europe, l'enthousiasme d'un côté donc, et de l'autre, les divisions, les crispations que suscite ici en Europe ce traité commercial. Hier soir, Paris a jeté un coup de froid. La France demande à Bruxelles de repousser au mois de janvier les dernières tractations entre Européens, ce qui revient en fait à geler la signature de l'accord qui est prévu ce samedi 20 décembre. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, devait se rendre au Brésil pour paraffer le document. Elle va peut-être devoir ranger son stylo et annuler son vote.
D'autant que la France n'est pas seule en Europe dans ce combat.
Effectivement, elle est certes minoritaire, mais pas esselée. L'Autriche, la Pologne, l'Irlande sont aussi très réservées sur ce traité avec le Mercosur, de même que l'Italie. Rome soutient d'ailleurs la demande française de reporter les débats selon l'agence Reuters. Tous ces pays, Fabienne, craignent les réactions de leurs agriculteurs, bien sûr. La dermatose en France rajoute encore de la pression, s'il en fallait. Alors la France et ses alliés peuvent former désormais une minorité de blocage en Europe. Cela veut dire qu'ils peuvent faire dérailler l'accord lors d'un vote prévu d'ici vendredi. Attention, ça ouvrirait quand même une crise européenne parce que l'Allemagne, elle, est très favorable au traité avec l'Amérique du Sud. Elle espère y exporter ses voitures, ses machines. L'Espagne aussi soutient fortement cet accord. Tout comme la Commission européenne, Ursula von der Leyen, met en avant les clauses spéciales ajoutées à la demande de la France, des clauses pour éviter une déstabilisation des marchés agricoles. Bref, à Bruxelles, il y a l'impression que beaucoup a déjà été concédé à ces Français décidément insatisfaits. Et c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément vu depuis la France où toute la classe politique quasiment est opposée à ce traité avec le Mercosur, mais s'il était repoussé ou rejeté ce traité, ça ferait quand même beaucoup de mécontents en Europe.
Et sans oublier les pays d'Amérique du Sud qui négocient ce traité avec nous depuis 1999, donc ça fait plus de 25 ans.
Oui, quand les tractations ont commencé, Lionel Jospin était Premier ministre, le président américain s'appelait Bill Clinton et Kylian Mbappé n'avait pas encore 2 ans. Ça fait un quart de siècle que Bruxelles et les pays sud-américains, Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay négocient. 26 ans qu'ils s'échinent sur chaque virgule, chaque pourcentage. Alors est-il encore possible de modifier les fondations sans faire tomber tout l'édifice ? Voilà où nous en sommes. Résumons l'affaire. Vu depuis les fenêtres de la Commission européenne, c'est la France qui brade les intérêts de l'Europe par démagogie envers ses agriculteurs. Mais vu de France, c'est l'Union européenne qui impose d'en haut un traité mal négocié. Enfin, vu du Brésil, les Européens sont imprévisibles et réclament toujours plus dans une posture d'arrogance envers les pays du Sud. Reste une question désormais, qui va perdre la face ?
Frédéric Seyss, merci beaucoup. À demain, Frédéric, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde est en Cisjordanie ce soir avec cette question: que fait l'armée israélienne? Une nouvelle opération vient de se terminer dans le nord-est, une autre est en cours depuis janvier dernier sur un territoire occupé par un demi-million de colons et sous pression militaire constante. Ces territoires, jusque-là relativement calmes, ont été ciblés. C'est le cas dans la région de Toubas, c'est là que nous allons, et le reste c'est Thibault Lefèvre qui raconte.
Sami Bacharat montre d'abord des menottes en plastique qui jonchent le sol.
Ce sont ces menottes souples que les soldats israéliens ont utilisées. On avait les mains attachées dans le dos. On ne pouvait ni bouger, ni se retourner. C'était un moment très difficile à vivre.
Puis le maire de la petite ville de Tamoun se dirige vers l'arrière d'une maison. C'est là, dit-il, qu'il a été interrogé avec une quarantaine d'autres détenus pendant plus de 6 heures. C'était le 26 novembre, il était environ 13 heures.
Ils m'ont emmené ici et m'ont obligé à m'asseoir sur ces pierres. Ils voulaient d'abord savoir ce que j'avais fait depuis le début de la matinée. Ils m'ont ensuite posé des questions sur ma famille, sur mes enfants, ce qu'ils font, leur âge. Ils m'ont dit qu'en tant que maire, il fallait que je dise aux habitants de surveiller leurs enfants, qu'ils ne s'engagent pas dans la politique ou dans des activités militaires. Ils m'ont assuré que sinon, Tamoun pourrait subir le même sort que Gaza. L'ensemble de l'interrogatoire portait sur le rôle de nos enfants.
À un peu plus de 5 km de là, l'armée a détruit la même semaine une quarantaine de logements dans le camp de réfugiés d'Al-Fara.
Ils ont fait sauter l'appartement avec ce fil et cette télécommande. Un soldat a appuyé sur le bouton et nous avons entendu une grosse explosion.
Le studio du fils de Fateya, 65 ans, n'a désormais plus de fenêtres. Du verre jonche le sol et les murs tiennent à peine debout.
Le soldat n'avait aucune raison de faire tout exploser. Il m'a d'abord demandé si je savais où étaient les armes. Je lui ai répondu que je n'en avais aucune idée, que mon mari et moi étions âgés et que nous vivions seuls. Il a fouillé la maison, il n'a rien trouvé, alors il a décidé de la faire sauter. Je lui ai dit de faire comme il voulait. De toute façon, c'est comme ça que les Israéliens agissent depuis toujours avec les Palestiniens. Nous ne sommes pour eux que des terroristes et des détenteurs d'armes.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un endroit encore sécurisé pour vivre aujourd'hui en Cisjordanie, à l'abri des offensives régulières de l'armée israélienne?
Il n'y a plus d'endroit sûr pour nous.
L'opération Mur de Fer a commencé il y a presque un an dans les camps de réfugiés de Jenin, de Tul Karem et de Nour Shams. Elle n'est toujours pas achevée. L'offensive la plus récente s'est-elle terminée il y a quelques jours et s'est concentrée notamment sur cette région de Toubas qui jusque-là était plutôt épargnée. Son gouverneur, Ahmed Assad.
En apparence, il s'agit d'une opération militaire. Mais en réalité, c'est une opération politique au sens strict du terme. Le Parlement israélien a ouvert la voie à une annexion de la Cisjordanie. Le gouvernorat du Toubas et la vallée du Jourdain sont directement concernés, parce que ces zones représentent un cinquième de la Cisjordanie.
L'armée israélienne a appelé cette intervention opération antiterroriste. Vous, vous dites que c'est une opération pour l'annexion de la Cisjordanie.
Je vais vous le dire en anglais. Ce sont des menteurs.
La région de Toubas et la vallée du Jourdain sont les zones les plus fertiles de Cisjordanie, évidemment les plus convoitées par les colons israéliens. L'armée de l'État hébreu a établi un premier bilan de la récente opération. 6 morts, des dizaines d'arrestations, 30 frappes aériennes, avec pour objectif, dit un de ses porte-parole, d'empêcher, je cite, des terroristes de s'implanter dans la zone.
Thibault Lefèvre pour le reportage. Thibault, merci beaucoup. À très vite. La suite d'un jour dans le monde, c'est ce que vous avez déniché sous les radars. Guillaume Audin.
Oui, sous les radars. À Milwaukee, où une magistrate se retrouve face au juge accusé d'avoir fait fuir un migrant ou au contraire d'avoir fait respecter le droit. Ça dépend si vous êtes maga.
La BO du monde, Cyril Sauvageau.
Je vous emmène ce soir à Addis Abeba avec une trouvaille, une de plus, exhumée par la formidable collection éthiopique.
Allez, ne partez pas trop loin les amis, la prochaine étape nous emmène à New York en période de Noël, quand ça sent la cannelle et qu'on chante des chants de Noël. Élue comme la meilleure chanson de Noël de tous les temps dans différentes émissions télé, classement en Grande-Bretagne et en Irlande, figurez-vous. Savez-vous ce que c'est, Cyril?
Last Christmas.
Mais non, c'est les Pogs. Mais non, Fairy Tale of New York, 88. Allez.
It was Christmas Eve, babe. drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you baby, I can see a better time. When all our dreams come true,
they got cars big as bars, they got rivers of gold, but the wind goes right through you, it's no place for the old. When you first took my hand on a cold Christmas Eve, you promised me Broadway was waiting for me.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more. Sinatra was swinging, all the junk they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away babe. And the bells were ringing out for Christmas Day. Dripping that bed.
You scumbag, you maggot, you cheap, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our last.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day.
Dans les Pogues, on est presque en train de poguer dans le studio d'ailleurs, et leur Fairy Tales of New York sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Guillaume Audat vient de remonter de dessous les radars.
She's been a spy in the shadows for decades, but will soon be in the one public-facing job in the whole place. She will be C.
Si, comme dans James Bond, évidemment, qui désigne le chef du renseignement britannique pour la première fois au Royaume-Uni. C'est une femme qui prend la tête du MI6.
Mitri Wally. Blaise Mitri Wally. Ce nom, les Britanniques l'ont entendu pour la première fois en juin dernier lorsqu'elle a été nommée. C'est également à ce moment-là qu'ils ont découvert le visage de cette jeune femme, 47 ans. Les cheveux châtains, mâchoire carrée, les yeux verts d'eau. Elle devient outre-manche l'espionne numéro 1 au service de sa majesté. Une première en 116 ans d'histoire, et elle donne ce soir, cette espionne, son premier discours comme chef des services secrets britanniques. En cette ère d'incertitude, ce sont ses mots. La nouvelle patronne du MI6 n'y va pas par quatre chemins. Elle désigne l'adversaire principal de la couronne. Il s'agit du Kremlin, déjà impliqué dans l'affaire Skripal, l'empoisonnement raté d'un agent double qui travaillait pour Londres. 7 ans plus tard, la Russie accentue sa pression, et spécialement depuis l'invasion de l'Ukraine. Cyberattaque, désinformation, sabotage, la guerre hybride se joue dans nos rues, sur nos écrans, dans nos esprits. Les frontières ont disparu, alerte Blaise Mitri Wally. La ligne de front, dit-elle, est partout.
This case centers on what has become a national controversy: immigration arrests and a judge accused of breaking the law. Tonight, Jason Kelby.
Nous allons donc aux États-Unis, Guillaume. Une magistrate du Wisconsin se retrouve sur le banc des accusés, jugée pour avoir facilité, c'est ce que dit l'accusation, la fuite d'un migrant en situation irrégulière.
Et dans l'Amérique de Trump, cette histoire devient une affaire nationale. Hannah Duggan, désormais connue du grand public, est juge à Milwaukee. Elle avait été arrêtée en avril dernier pour avoir interdit à des agents de la police de l'immigration, la fameuse ICE, de pénétrer à l'intérieur de son tribunal sans un mandat d'arrêt en bonne et due forme. Elle jugeait à ce moment-là un Mexicain en situation irrégulière. Or, face à l'insistance des policiers qui voulaient absolument rentrer, elle a finalement fait sortir ce prévenu par une porte annexe en compagnie de son avocat. Voilà le motif de sa comparution ce lundi. Entrave à une procédure fédérale, dissimulation d'une personne afin d'empêcher son arrestation. Hannah Duggan encourt jusqu'à 6 ans de prison si elle est reconnue coupable. Une affaire qui illustre vraiment le durcissement de la politique migratoire aux États-Unis. Les tribunaux, pas plus que les écoles, ni même les églises, ne sont désormais des sanctuaires. Le cas Duggan aura valeur de test pour l'équilibre des pouvoirs où le politique sous Trump impose un bras de fer au judiciaire.
Stop erasing us while profiting from our culture. Prada, next time you want to walk in our shoes, at least name the street you stole them from.
Et enfin, voici un détour par l'Inde qui reprend à Prada sa paire de sandales.
Et ce que rajoute cette lanceuse d'alerte qu'on a entendue, une lanceuse d'alerte indienne, c'est qu'aujourd'hui, avec Internet, tout se voit, tout se sait en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et c'est vrai. Typiquement, cette histoire, il y a 10-15 ans, serait probablement passée à l'as. Une fashion week en Italie, une maison qui fait défiler ses mannequins en sandales traditionnelles d'inspiration indienne. On aurait crié au miracle venu du fond des âges. Patatras, tout ça s'est terminé en juin dernier. Prada s'est pris les pieds dans le tapis des hommes sur un podium nonchalant en sandales qui ressemblent à la couture près au Kolhapuris Chapal, un savoir-faire traditionnel qui remonte au XIIe siècle. Morale de l'histoire, à l'ère de TikTok, Insta et autres snap, plus c'est gros, moins ça passe. La marque a été accusée d'appropriation culturelle. Elle a dû avouer et corriger le faux pas. Une collab, comme on dit aujourd'hui, a été signée avec ses artisans du sud-ouest de l'Inde. Ces fameuses sandales, elles sortiront l'été prochain. Spoiler, ce ne sera pas donné, car vous savez, comme moi, le diable s'habille en Prada.
Eh bien voilà, merci beaucoup. C'est marrant, j'avais compris à l'envers, en fait. Mais
oui,
peu importe.
J'ai entendu, mais c'est pas grave.
Eh bien écoutez, on l'a remis dans le bon droit. Merci beaucoup, Guillaume. À demain. La BO du Monde, c'est Cyril Sauvage.
France Inter.
La BO du Monde est en Éthiopie, Cyril, ce soir, à la redécouverte d'une pépite musicale oubliée. C'est la nouvelle sortie d'une collection culte, la série Éthiopique.
Et il reste donc encore des trésors dans les archives d'Addis Abeba. Ça fait déjà 30 ans que la collection Éthiopique exhume des dizaines d'enregistrements oubliés et leur donne une nouvelle vie. En voici un nouveau. Il n'avait jamais pu être réédité en entier jusque-là. C'est pourtant, dit-on, l'un des chefs-d'œuvre absolus du groove éthiopien des années 70. Au micro, un tout jeune chanteur, Mouloukène Mélessé, accompagné du Dalak Band, un des meilleurs orchestres éthiopiens. Nous sommes en 1976. Ce 33 tours, oui, sera l'un des derniers vinyles pressés en Éthiopie avant un tournant politique majeur, la reprise en main du pays par la dictature stalinienne du Derg. La fin d'une période de 20 ans pendant laquelle un vent de liberté aura soufflé sur la capitale Addis Abeba, une sorte d'âge d'or pour les orchestres et les musiciens bientôt balayé par le vent de l'histoire. C'est le crépuscule de cet âge d'or qu'illustre cet album de Mouloukène Mélessé.
Et c'est un producteur français, Cyril, qui est à l'origine de ces rééditions désormais célèbres dans le monde entier.
Une figure quasi légendaire dans l'univers des musiques du monde, Francis Falsetto, producteur, musicologue, tombé fou amoureux avant tout le monde de ces musiques éthiopiennes. Très tôt, dans les années 80, il décide de partir à la source, à Addis Abeba, malgré la chape de plomb de la dictature. Il se met en quête des disques originaux qui prennent la poussière quand ils ne sont pas mis au rebut. Ça le conduira à rencontrer tous les musiciens et les producteurs ou à retrouver leurs traces en exil. Et c'est ce qui va donner naissance à cette collection éthiopique, 32 volumes édités en l'espace de 30 ans. « Ce que donne à entendre ces rééditions, c'est une musique qui ne ressemble à rien d'autre en Afrique. Entre le jazz et les mélopées traditionnelles éthiopiennes, le côté envoûtant des cuivres et des mélodies va séduire des mélomanes curieux en Europe, aux États-Unis et jusqu'à Hollywood. Consécration au milieu des années 2000, le réalisateur Jim Jarmusch utilise plusieurs titres pour la BO de son film Broken Flowers.
Et c'est que le début d'un renouveau qui perdure jusqu'à aujourd'hui.
Avec ce succès inespéré, les vétérans de ce qu'on appelle l'éthio-jazz vont voir leur carrière relancée. C'est le cas du chef d'orchestre Mulatu Astatke, on l'entend ici, qui multiplie les tournées à succès. Il vient d'ailleurs de tirer sa révérence à l'âge de 81 ans après plusieurs collaborations avec des artistes d'aujourd'hui. C'est le cas aussi du saxophoniste Getachew Mekuria, ici en duo avec un groupe anarcho-punk néerlandais, wow. YX. D'Amsterdam à New York, une nouvelle génération de groupes reprend le flambeau, de jeunes musiciens passionnés d'éthio-jazz, pas du tout éthiopiens eux-mêmes, mais vont livrer leur propre lecture du genre. Et la France est pourvoyeuse de certains des meilleurs groupes en la matière. Citons par exemple Akale Wube, qui ont eu l'occasion de collaborer pour Ethiopic avec une autre légende d'Addis Abeba, le chanteur Girma Beyene, ou encore les Parisiens d'Arat Kilo, auteur il y a quelques mois d'un très bon nouvel album, Arat Kilo, qui ouvre de nouveaux horizons en fusion. Fusionnant l'éthio-jazz, la musique malienne et le hip-hop.
The gods, the universe, but how often do we say, excuse me, and am I interrupting something? Is this a good time? Don't get me wrong, there are exceptions, but mostly we feel we are doing the world a favor. Barging in verse, ablazing for all we know, the mountains.
Cyril Sauvageau, merci beaucoup, c'est formidable ce qu'on découvre grâce à vous chaque semaine. Vous reviendrez lundi prochain.